Chez Land Rover, nous avons tant d'aventures à raconter. Nous avons sillonné de nombreux pays. Nous avons participé à des films d'action, tout en partageant nos victoires. Aujourd'hui, nous ouvrons ensemble un nouveau chapitre avec nos SUV hybrides FlexFuel E85. Choisissez le super éthanol E85 et réalisez des économies avec un carburant à 66 centimes le litre. Rendez-vous chez votre concessionnaire Land Rover pour bénéficier de conditions exceptionnelles sur nos modèles hybrides.
Land Rover.
Prix de vente moyen au 5 mars.
Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission gourmande de France Culture consacrée à la cuisine, à l'alimentation, à la table comme fait culturel majeur. Comme chaque dimanche, à 12h15, nous donnerons la parole à Matteo Caranta qui recueille de temps à autre les confidences de chefs confinés. Aujourd'hui, un couple de cuisiniers parisiens qui a créé le bistrot à la maison. Et puis pour notre plat du jour, une question, la haute gastronomie a-t-elle un avenir ?
Écoutez, toute ma joie de vivre, c'est mon restaurant. Toute ma passion, c'est mon restaurant.
Vous n'allez pas me faire croire que votre seule recette du bonheur se limite à la charlotte pomme en l'air et à la bécasse sur canapé.
Écoutez, monsieur le commissaire, je vais tout vous dire. À l'âge de 16 ans, j'entrais en cuisine.
Comme on entre dans les ordres.
C'est cela.
Eh bien, moi, je vous préviens, mon père, que si vous ne voulez pas que je fasse fermer votre monastère...
Parfaitement, j'en ai le droit, mon Dieu.
À vous de prouver votre bonne volonté.
Et comment ça ?
En collaborant étroitement avec mes services.
Depuis près d'un an maintenant, les restaurants subissent de plein fouet la crise due à la pandémie de Covid-19. Tous ont fermé leurs portes et beaucoup ne rouvriront pas. Pour les autres, l'heure est à la réflexion car de fait, la crise a bouleversé les représentations, dans la gastronomie comme ailleurs. Elle a précipité des conversions et révélé des tendances de fond. Les chefs sont tenus désormais de repenser leur métier et d'aucuns envisagent sérieusement de réinventer et leur carte, et leur façon de travailler, et leur rapport aux clients. Alors est-ce que c'est la fin d'un monde, le début d'une ère nouvelle, ou une simple parenthèse dans l'histoire de la gastronomie française ? C'est la question que nous allons poser à nos trois invités ce midi. D'abord deux chefs doublement étoilés, Johan Comte, bonjour monsieur.
Bonjour.
De la Maison Bleue à Verrier-du-Lac, c'est moi qui vous remercie. À Verrier-du-Lac, c'est sur les bords du lac d'Annecy. Vous êtes le chef de la table de Johan Comte et du Roc qui bientôt va proposer une cuisine plus accessible que celle de la table de Johan Comte. Et puis, avec nous également Yannick Delpech, bonjour à vous.
Bonjour tout le monde.
Vous avez été, vous, chef de l'Amphitryon à Colomiers en Haute-Garonne pendant 25 ans. C'est là que vous avez eu 2 étoiles, vous en avez perdu une et puis vous avez renoncé à la 2e. Et désormais, vous êtes à la tête du restaurant des Roses et des Orties, toujours à Colomiers. Et puis de la table d'hôte, cuisine sans dépendance, à Gaillac, dans le Tarn. Et avec nous, en studio, se trouve Jörg Tsiprik. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes journaliste, cofondateur de La Liste. Alors La Liste, c'est un classement gastronomique qui classe quelques 25 000 restaurants dans quelques 200 pays et qui distingue les 1000 meilleurs restaurants du monde. Et La Liste a également fait un rapport dont vous avez été le rédacteur en chef, un rapport d'études qui dresse le paysage, disons, d'aujourd'hui et puis qui donne beaucoup de pistes pour demain, intitulé « L'Observatoire de la gastronomie ». Première question, puisqu'on entendait cet extrait avec Bernard Blier et Louis de Funès, fameux extrait du grand restaurant. Première question à tous les trois, est-ce que ce qu'on appelle le grand restaurant appartient au passé ? Et est-ce que, comme le dit Yannick Aleno, un autre grand chef dans un livre à paraître, tout doit changer ? Jörg Tsiprik.
Oui, il y a certainement certaines formes de grande restauration qui vont appartenir au passé. Je ne crois pas du tout que le grand restaurant en tant que tel appartient au passé. Les gens vont toujours avoir envie de faire la fête. Ce que je dis dans le rapport, c'est que il y aura un retour à la convivialité. Il y aura peut-être moins de compétition, moins de égarement dans la sophistication, moins de haute technicité. Je pense que on va voir un retour vers une cuisine qui réchauffe un peu le cœur, vers la convivialité, vers quelque chose qui nous rassure. Je ne pense pas que les gens veulent aller dans une exposition d'art moderne quand ils vont au restaurant.
Johan Comte.
Ah, bah, ça me fait plaisir d'entendre ça. J'avais un peu peur de la réponse, je dois l'avouer.
Mais finalement, je suis ravi d'entendre ça. Donc, bravo.
Et alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous ?
Ben, on a toujours besoin, et on le voit d'autant plus aujourd'hui, ce mot grand restaurant a été complètement galvaudé, mais ce qui nous réunit encore et toujours, la preuve, nous sommes dimanche et on devait, mais à cause de vous, j'ai presque envie de dire, on a renoncé à faire venir le beau frère et la belle sœur. Non, j'aurais été content de les voir.
Oui,
mais le plaisir de se retrouver autour de la bonne chère, et c'est ce que je voulais rajouter là, c'est que aujourd'hui, haute gastronomie était souvent une sorte de... On en mettait trop, c'était que des beaux produits, c'était on mariait du pigeon, du foie gras ou Saint-Jacques caviar, il manquait plus qu'on mettait une lamelle de truffe, et c'était trop. Mais aujourd'hui, de retrouver tout le goût d'un bon céleri bien élevé, de bonne terre, et de trouver, de mettre ce produit-là en exergue, ça c'est l'avenir. Aujourd'hui, je dis souvent que les fondamentaux, c'est exactement ce que monsieur disait, il faut qu'on retourne à ces fondamentaux qui ont été les plaisirs de la table. L'homme a été trop excessif, il faut qu'on retrouve cet équilibre du bon produit et surtout du bien manger et de pas trop manger. J'ai même une phrase de Yves Turiès qui disait il ne faut pas aller au restaurant pour avoir le souvenir plutôt d'avoir trop mangé, mais le souvenir d'avoir bien mangé.
Yannick Delpech.
Ouais, alors moi je suis d'accord avec tout le monde. En fait, tout dépend de ce qu'on appelle la haute gastronomie. Pour moi, il y a une gastronomie qui est mondiale d'ailleurs et qui rassemble beaucoup de cuisines complètement éclectiques et c'est un petit peu ce que moi j'ai fait à Des Roses et Des Orties après l'incident que j'ai eu il y a 2 ans où j'ai changé, j'ai dû réfléchir aussi à l'évolution de la cuisine, donc j'ai réfléchi également à le Covid moi.
Rappelez-nous pardon Yannick Delpech, à quel incident vous faites référence il y a 2 ans?
J'ai eu un incendie lié aux mouvements sociaux qu'il y a eu il y a 2 ans. Et donc mon restaurant a été entièrement ravagé et c'est là que je me suis posé la question de savoir ce que je voulais faire dans les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années parce que je voyais très bien l'évolution de mon métier, bien évidemment comme tous les chefs de cuisine, on voyait bien qu'il y avait des choses qui se passaient et on le voit encore plus aujourd'hui. Donc toute la réflexion que mes confrères ont eue depuis 1 an maintenant, moi, je l'ai eu 1 an avant. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai ouvert la table d'hôte, parce que je voulais retrouver de la convivialité. Johan en parle très bien. C'est exactement ça. Pour moi, le plaisir de la table, c'est d'abord la convivialité et le partage. Et j'ai voulu rassembler aussi plein de cuisines qui m'intéressaient dans Des Roses et Des Orties. C'est-à-dire que c'est une carte complètement éclectique. Voilà, on peut retrouver de la cuisine au four à bois, de la cuisine plus traditionnelle, etc., etc. Et surtout, moi, je pense que l'évolution, elle passera aussi par le prix. Voilà, je pense qu'il y a eu une... On est parti dans des choses complètement délirantes les 20 dernières années, où le rapport prix-repas était incohérent. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire payer ce que mes convives retrouvent dans l'assiette, et pas tout un environnement de luxe qu'on attache à la haute gastronomie et qui, pour moi, est un peu terminé. Voilà.
Ce qui a fait, Yannick Delpech, que vous avez baissé vos tarifs de 50%. Je croyais que c'était pas possible
de faire
quelque chose comme ça.
Largement de 50%, voire même plus sur certaines choses, oui. Et je prends énormément de plaisir à le faire. Et je ne me mets aucune barrière à quoi que ce soit. Si j'ai envie de faire un plat mexicain, je fais un plat mexicain, etc., etc. Mais tout en ayant mes bases de cuisine française, toute mon histoire culinaire, en fait.
Donc c'est comme si tous les deux, Johan Comte et Yannick Delpech, vous exprimiez la volonté aujourd'hui de vous affranchir des codes de la gastronomie. Oui. Comme si cette gastronomie aujourd'hui, vous avez tous les trois parlé d'un retour nécessaire à la convivialité, ce qui peut surprendre les néophytes que nous sommes à vous écouter, parce qu'on pensait vraiment que les tables étaient des tables de convivialité. Donc parler d'un retour à l'essentiel, à des fondamentaux, comme si vous sous-entendiez tous les trois que ça avait disparu, c'est vrai que ça pourrait nous surprendre. Jörg Zipric.
Pour moi, la convivialité a progressivement disparu pendant les derniers 20 ans. Les restaurants très haut de gamme étaient de plus en plus centrés sur le chef et sa vision, pas sur le plaisir du client. Je dois avouer que ça me dérange dans certains tables. J'ai connu la grande gastronomie dans les années 80 et c'était très centré sur le plaisir du client. Et du coup, on m'expose à des discours sur des fermentations nordiques, sur des techniques que je ne maîtrise pas et que je ne voudrais pas maîtriser, comme si c'était nécessaire, pendant que je veux passer un bon moment avec mon épouse, mes convives. Voilà, on est parti dans un monde d'exagération, de plus en plus technique, de plus en plus éloigné de la réalité du terrain, d'une région. Quand je me déplace, j'aime bien trouver quelque chose de typique.
Johan Comte, ça suppose de repenser également la place du chef devenu superstar, notamment superstar via la télévision, mais pas seulement. Beaucoup parlent aujourd'hui de responsabilité, d'engagement. Vous en faites partie ?
Écoutez, c'est un vaste sujet, on n'aura pas assez le temps pour... Mais tout ça est très intéressant, parce que vous savez, quand on est passé des chevaux, de la ferronnerie à la voiture et du moteur à explosion, je pense que ça a été un gros choc aussi. Aujourd'hui, effectivement, et j'aime ce que dit monsieur de la liste, excusez-moi, j'ai pas envie de mâcher son nom de famille, c'est qu'aujourd'hui, il faut remettre le plaisir et l'expérience du client. Nous avons la chance d'avoir la Maison Bleue au bord du lac d'Annecy, donc rien que déjà, la maison vaut le voyage. Et je voudrais m'exprimer ainsi, parce qu'au début, puisqu'on va parler de compétition, puisque les guides en font partie, les chefs, n'oublions pas que nous, on fait ces métiers pour faire plaisir aux gens. On est des transmetteurs de bonheur, on est un trait d'union entre nos producteurs et le client, et nous faisons des compositions, donc on fait une musique et notre solfège, ce sont les produits. Et c'est vrai que je l'ai vécu, hein, puisque j'ai travaillé avec Marvera auparavant, à cette ascension de la starisation des chefs, et nous on n'en veut plus. En majorité, hein, parce qu'il y en a toujours qui veulent briller par rapport à ça. Mais n'oublions pas qu'avant, une bonne table, c'était une étoile Michelin, vol des tours, c'était deux, et ça a été créé parce qu'il faisait des pneus, et c'est quand il perçait ce pneu, il fallait un petit guide pour aller chez un garagiste. Et ce garagiste, il fallait 6 heures pour changer un pneu, et il y avait toujours dans ce petit guide une table ou un lieu de rendez-vous pour patienter 6 heures. C'était clair. Une bonne table, on pouvait s'y arrêter le temps qu'on bricole notre pneu. C'était pas obligé de percer un pneu pour pouvoir aller à cette table qui valait le détour. Et puis, si vous preniez la nationale 7 pour les gens les plus aisés, vous pouvez partir en vacances et faire des étapes dans des auberges. Nous ne restons que des aubergistes, et c'est ça qui me plaît chez Yannick Delpech aujourd'hui, c'est que vraiment, il vit ce qu'il a toujours aimé faire. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut faire abstraction de tous ces guides et le faire pour ses clients, et adviendra ce qu'il adviendra. Mais arrêtons de vouloir faire les choses pour quelqu'un. Faisons plaisir à nous-mêmes, et normalement, ça doit transpirer et le client le ressentira. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce rock, c'est ce petit restaurant à côté, avec retrouver des plats de grand-mère, puisqu'au début, on n'en voulait plus. Plus de pot-au-feu, plus de blanquettes, plus de bourguignons, c'était old school, c'était vieille cuisine française, franchouillarde même. Les cassoulets, on n'en voulait plus. Et aujourd'hui, la technicité que l'on veut, c'est ça, c'est le savoir-faire et le faire savoir. Aujourd'hui, faire voler ou de la mousse ou des écumes ou des bulles qui pètent, quand on avait vu ça à la télévision chez El Bulli, c'était presque de la magie. Mais ce que veut, quand on va voir un magicien, c'est que la carte disparaisse. Maintenant, comment il le fait, on s'en fout. Donc aujourd'hui, le plaisir doit être dans un plaisir retrouvé du goût et du partage. Donc revenir aux fondamentaux et trouver cet équilibre qui a été too much. On foutait la chiasse aux gens parce qu'on mettait des produits chimiques de façon exhaustive dans des recettes. Et les plus grands restaurants de ce monde qui ont été classés numéro 1, il fallait être sponsorisé par Imodium parce que se retrouvait quasiment malade avec des problèmes gastriques infernaux. Donc aujourd'hui, revenons à des choses plus normales et de redécouvrir ce que c'est qu'une bonne pomme de région, bio si elle le peut, ou bien élevée, comme on le dit souvent. Et vous verrez que les choses rentreront dans l'ordre. Arrêtons cette surenchère de la surmédiatisation, de moi je fais ci, moi je fais
oui,
ça.
Oui, mais Johan Comte, quand vous avez fermé la table de Johan Comte il y a quelques mois, vous l'avez présenté comme une mise entre parenthèses pour revenir plus fort et atteindre les 3 étoiles. Ça veut dire que vous avez renoncé à cette course aux étoiles maintenant ?
C'est pas que j'ai renoncé, c'est que j'ai voulu remettre le débat au centre du village. Je veux faire vivre une expérience à mes clients, mais j'avais besoin, moi-même, j'avais la tête dans le guidon, j'avais besoin de faire un break, de me repositionner. Ça faisait 10 ans que j'avais repris la Maison Bleue, 10 ans où à un moment donné j'avais maîtrisé les 3 premières années parce que c'était simplement au début réouvrir la table et faire du bon manger. Et puis après, ben, on a été rattrapé par on est 70 employés aujourd'hui. Oui, j'ai perdu un peu pied et j'ai profité de cette malheureuse expérience du virus planétaire pour dire stop. Fêtons les 10 ans de maison avec mon épouse. Reprenons un peu le débat, c'est-à-dire nos vies, Et quand j'ai rouvert, non seulement tout le monde était content qu'on réouvre la table dite de Johan Comte, mais bon, il a fallu mettre un nom parce que c'était la table de Marvera à l'époque, donc comme ça, il y a pas mal d'hommes. Mais aujourd'hui, on a recentré le sujet, oui, vraiment, et on se fait plaisir, et j'ai retrouvé un équilibre. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour faire nourrir les employés avec toutes ces charges que l'on connaît et les produits qui coûtent très cher, qu'on parle de la langoustine ou du caviar, aujourd'hui, j'ai plus de plaisir à mettre en exergue une pomme ou un céleri de région, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et de faire frissonner les gens, parce qu'on a fait une recherche sur une carotte, sur un céleri, sur un fenouil, et les gens sont épatés de ce que l'on peut faire aujourd'hui d'un fenouil ou d'un céleri. Et la noblesse, elle est par le savoir-faire et non pas le luxe du produit et l'offre et la demande. C'est ça aujourd'hui le problème aussi. Hein.
Il est 12h15 sur France Culture, vous écoutez Les Bonnes Choses. On vous retrouve d'ici quelques petites minutes. Et quand il n'y a plus de restaurant, eh bien que fait-on? C'est la question que pose Matteo Caranta dans les confidences de confinés et qu'il a posée cette semaine à un couple de cuisiniers passionnés, Ariane et Andrea. Lui était chef dans un bistrot et formateur à l'école de cuisine de Thierry Marx. Elle, tout juste diplômée de cette même école. Depuis un mois, ils ont décidé tous les deux de proposer leur cuisine à tous les habitants de leur immeuble avec une formule bistrot chez vous. Cela donne du local, des courses chez les commerçants du quartier dans le 18e à Paris et un menu plat dessert à 12 euros. Leur nom, les voisins du 4e.
On a décidé de monter ce qu'on a appelé le bistrot du 4e étage parce que on est deux cuisiniers en inactivité, en tout cas à cause de la situation. Et c'est parti d'une envie d'abord de continuer à cuisiner tous les deux. Et en fait, comme on vient d'emménager ici, on s'est dit que pour les gens qui télétravaillent, en tout cas dans notre quartier, il n'y a un peu que deux options. Soit passer vite fait à la boulangerie, soit commander sur des apps dédiées. Et après, moi, ce que j'ai toujours trouvé sur ces apps, c'est qu'il y a une offre extrêmement variée, mais en fait, on ne trouve pas de bons plats français traditionnels. Et c'est toujours assez cher. Donc voilà, je trouvais ça plus plaisant pour les gens de pouvoir commander des bons plats traditionnels français à moindre coût, quoi.
On part d'une cuisine maison, comme si on faisait un repas pour 10 personnes, 15 personnes du dimanche, on le fait mercredi et vendredi. Et voilà, c'est comme dans un bistrot. Dans un bistrot, quand on prépare 20 blanquettes de veau pour le midi, on en a vendu 15. Et les 5 autres, c'est pour le personnel et c'est pour cela qu'on l'appelait le bistrot du 4e étage parce qu'on fait comme un bistrot. Et on pratique nos recettes préférées, on va acheter les produits autour, dans les coopératives, dans les marchés qu'on connaît, chez Michel Le Boucher. Donc on se fait un petit salé, plat de saison, d'hiver. Et les jarrets, je les ai un peu marqués au four avec des bonnes carottes et pommes de terre paysannes. Deux saucisses de morteau un peu fumées pour que pendant le fumé à tout aux lentilles. J'ai coloré des bonnes échalotes et de la fenouil. Et là, on va mettre un peu des épices, vin blanc, de l'eau, les lentilles. Ça cuit 2 heures au four. Reposer la nuit, demain, ça va être beaucoup mieux. Et demain, on a un petit salé avec des pommes de terre, carottes, fenouil, échalotes. Et voilà. En tout cas, ton petit salé, il cuit là, d'accord?
Tranquille.
Je savais que t'allais en prendre là. Les gens mangent bien, on amène la cuisine, une bonne cuisine qu'on ferait dans un restaurant. Mais... Bon, merci. Merci Jean-Paul. À demain.
Yannick Delpech, en entendant ces confidences de confinés chez un couple de cuisiniers passionnés qui font du bistrot à la maison, on se demande finalement qu'est-ce qui va distinguer à l'avenir donc le bistrot chez vous, eh bien de la cuisine d'un grand restaurant.
Le bistrot chez vous,
Ouais, mais il y aura toujours.
Est-ce que là, c'est pas un peu ça, ce que vous proposez?
C'est l'effet Covid, ça. Le bistrot chez vous, tout ça, c'est un peu l'effet Covid. J'espère qu'on va sortir très rapidement. Donc, moi, je réfléchis à l'après Covid, c'est-à-dire dans 6 mois, peut-être 1 an, ou quand ça sera complètement terminé, on aura toujours besoin d'une table et de partager ce moment. Voilà. Et l'esprit bistrot, en fait, moi, j'ai envie de dire, c'est presque l'esprit familial, et c'est la cuisine que l'on fait tous les jours. Voilà, par exemple. Aujourd'hui, on est dimanche. Moi, j'ai préparé un agneau confit 7 heures avec des haricots, tout ça. On va se régaler à midi. Voilà, c'est un plat de bistrot, c'est un plat convivial, c'est un plat qu'on a envie de partager aussi. Voilà. Donc on va, là, on va le partager à un petit comité, mais j'espère que dans quelques temps, on pourra le partager à un plus grand nombre.
C'est pourtant l'idée de la table d'hôte que vous avez ouverte, Cuisine sans dépendance.
Oui. Oui, mais je voulais revenir un peu sur ce que disait Johan tout à l'heure, qui était très intéressant, c'est que dans ma première question, j'ai parlé du prix, et ce que je voulais parler surtout, c'est ça, c'est-à-dire que il faut enlever tous ces produits de luxe qu'on achète très cher et donc qu'on vend très très cher. Voilà. Et on peut se faire plaisir avec des produits dits de terroir, même si j'aime pas trop cette expression parce que j'aime pas me cloisonner à un style, mais aujourd'hui, moi, en ayant ouvert, je suis revenu dans le Tarn, dans mon département, et je suis un fils de paysan, d'agriculteur, de vigneron, tout ça dans ma famille, et j'ai redécouvert tout ça, voilà. Avec le Covid aussi, parce qu'on a eu un peu plus de temps, donc on a redécouvert des choses, on a redécouvert les produits, on a redécouvert la façon de les amener à un produit top, quoi. Et je suis d'accord qu'on peut faire une très belle cuisine avec une pomme, un céleri, une carotte, etc., etc. Et ce qu'il faut ramener à nos clients, à nos convives, c'est ça. Voilà. Parce que je suis encore complètement effaré parce que bon, en plus de mes restaurants, j'ai une pâtisserie, une boulangerie. Et là, on vient de passer la Saint-Valentin. Et la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'on a retrouvé? Chez tous les, pas tous les pâtissiers, mais chez beaucoup de pâtissiers, même de grands pâtissiers, des framboises. Voilà. Le dessert, parce qu'il fallait trouver, il faut un dessert rouge pour la Saint-Valentin, donc tout le monde a fait des framboises. Je trouve ça tellement, c'est malheureux, en fait. J'ai mal à mon métier quand je vois ça. Et je m'étais dit, sur le premier confinement, on a parlé beaucoup des producteurs, tout ça, parce que tout était fermé, donc on allait faire ses courses chez le maraîcher, etc. Et je m'étais dit, bon, on va au moins gagner ça, on va arrêter cette mise en abîme là des produits qui arrivent de l'autre bout du monde, à tout bout de champ, sur tout le long de l'année. Et malheureusement, de suite, la première au mois de juillet est arrivée, et on est revenu chez McDo, etc., etc., etc. Voilà. Et aujourd'hui, on est un an après, et il y a encore des framboises dans les vitrines des pâtissiers, et je trouve ça pitoyable. Voilà, pitoyable parce que c'est à nous aussi. C'est à nous, comme le disait Johan, c'est à nous de refaire découvrir un bon produit, de le cuisiner et de faire plaisir à nos convives, mais avec des choses, il faut revenir à des choses plus sereines, plus terre à terre. Voilà. Et la cuisine, elle passe par ça, et c'est ça notre métier, en fait.
Jörg Zieprich, des produits qui viennent du bout du monde, c'est une chose, mais aussi des clients qui venaient dans ces restaurants de haute gastronomie et qui venaient du bout du monde. La clientèle était nombreuse, en tous les cas, venant du tourisme international. Cette clientèle-là ne vient plus ou très peu. Est-ce que ça veut dire aussi, et c'est ce que vous dites dans le rapport de l'Observatoire de la gastronomie, que les restaurateurs vont être sans doute obligés de réinvestir le local, aussi bien pour les produits que pour la clientèle, de renouer avec la clientèle locale?
Oui, c'est tout à fait ça. Alors, ce qu'on appelait en anglais le destination dining, le dîner destination, c'est mort, il n'y a plus de tourisme. On ne sait pas quand ça va revenir, on ne sait pas si ça va redevenir comme avant. Et il y avait, à cette époque, des chefs, un peu moins en France, un peu plus à l'étranger, qui osait dire, moi je suis un artiste et je suis entouré des ploucs de mon village. Les ploucs, c'était les gens qui étaient avec lui à l'école, qui étaient rarement dans son restaurant. Et aujourd'hui, ceux qui insultaient les villageois, ils font un peu grise mine car ça ne marche plus. Aujourd'hui, il faut d'abord penser à son entourage, peut-être à un tourisme de proximité, mais le pouvoir d'achat des grands touristes internationaux, qu'ils soient américains ou japonais ou chinois, pour l'instant, il n'y en a pas.
Est-ce que vous diriez, Jörg Zieprich, que l'année 2020 a tout changé ou qu'elle a simplement, au fond, accéléré un mouvement engagé depuis plusieurs années de retour aux fondamentaux pour déjà de nombreuses et nombreux chefs hein, qui étaient dans cette réflexion-là, d'un changement aussi des valeurs, c'est-à-dire à un environnement de travail sûr, sans violence, une plus grande inclusivité en cuisine et en salle, justement le choix de produits locaux et bio, une cuisine sans additifs industriels ni arômes chimiques. Tout ça était en cours et la crise du Covid a accéléré ces changements, ou bien vous avez l'impression que c'est les nouvelles habitudes adoptées pendant les différents confinements de cette année qui ont montré que ça n'était plus compatible avec le modèle des restaurants gastronomiques haut de gamme tel qu'on le connaissait.
Alors je pense qu'effectivement le Covid a accéléré les choses. Je ne vois pas le Covid comme un grand novateur. On l'entend avec Johan Comte et Yannick Delpech qui sont posés les bonnes questions. Et ça a été pour certains peut-être un motivateur pour changer plus vite. Mais je pense pas qu'il y a beaucoup de nouveau qui est sorti du Covid, mais il y a une grande accélération des tendances qui existaient déjà.
Johan Comte, est-ce que vous diriez que finalement c'est un mal pour un bien pour vous ?
Ouais, attention à ce mot-là, parce que bien sûr on a envie de le dire si on était en off et entre amis que tous les quatre, mais il y a eu quand même beaucoup de douleurs, il y en a qui ont perdu leurs proches.
C'est pour ça que je dis pour vous, oui. C'est pour ça que je dis pour vous.
Oui, alors moi j'ai eu la chance de pas avoir de malheur du vivant, donc pas de mort en tout cas qui a été touchée ma famille. Mais ce que dit York est très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, oui, vous l'avez dit, ces valeurs, ces fondamentaux. Aujourd'hui, on a appris à faire du solfège à l'école. Peut-être qu'il va falloir, et Yannick le comprend très bien en disant, arrêtons les framboises au mois de février. Mais ça fait des années que ça dure. Oui. Même les plus grands chefs l'ont fait. C'est devenu une normalité, et c'est à nous de faire comprendre, donc de passer à nos tout petits. Moi, je suis ravi aujourd'hui que mes enfants, donc j'en ai une de 13, de 8 et de 5, aujourd'hui, le tri sélectif est fait, les verres avec les verres, le carton avec le carton, le plastique avec le plastique. Mon gamin ne veut plus de plastique. Quand il voit du papier plastique, il en est malade. Aujourd'hui, on a un rapport avec les animaux. Mes enfants, on a des poules, on a des oies. Bon, j'ai la chance de vivre en campagne avec 3500 mètres carrés de terrain. Donc, je suis moi-même... j'ai choisi cette villa. J'ai voulu, moi, sortir un petit peu du lac d'Annecy qui est très coûteux pour revenir à des choses plus normales. Une petite maison, mais beaucoup de terrain. Vivre, on vit vraiment entouré de fermiers, et c'est important de retrouver ces valeurs-là, de dire qu'il n'y a pas de produits nobles ou moins nobles. Aujourd'hui, il faisait froid, on a été prendre des plats de côte et on les a fait confire, des bons jarrets, des colliers, mais c'est refaire retrouver. Mais on était tellement été vite le côté du bourguignon de la grand-mère qu'on mettait sur la droite où il y avait la braise et que disait non, laisse le refroidir là, on le mangera demain, c'est meilleur réchauffé. Mais quand on a fait le bourguignon à la maison, qu'on rentre du boulot, qu'on le fait bouillir et qu'on perd tout ce côté collagineux de la viande et que d'un coup on dit oh la viande elle est pas bonne, elle est sèche. On vit dans un monde pressé. Avant, j'ai même pas envie d'être péjoratif, mais moi j'ai connu toujours les mamans de la maison, mes grand-mères étaient à la maison et s'occupaient des enfants, de la culture, des devoirs, de l'écriture et du foyer, j'ai envie de dire. Mais revenons à ces fondamentaux-là. Le foyer, c'était quoi ? Eh ben, c'était juste un feu et on s'occupait du foyer. Puis après, c'est devenu la maison, les enfants, la famille. Eh ben, ce qui a été salvateur, c'est que le Covid nous a réunis de nouveau en famille et on voit nos priorités. Et j'espère que ça a été salvateur pour tout le monde. D'ailleurs, on l'a vu sur Paris, les gens ont repris goût à sortir de cette capitale où tout le monde disait « Non, mais Paris, c'est Paris ». Non, tout le monde a revu le... Regardez, je fais court. Avant, il n'y avait que des photos sur Instagram de bouffe. Excusez-moi le mot « bouffe ». Mais aujourd'hui, ça y est, les gens ont redécouvert des arbres, reprennent la nature en photo. On a moins ces photos papier glacé où il y avait des plats qui étaient tirés à quatre épingles, où on voit maintenant des chefs mettre des feuilles avec des épingles à nourrice et des pincettes. C'est pas ça, la cuisine.
C'est autre chose, c'est un lieu de vie. La clé est peut-être dans la diversification et, comme le dit l'Observatoire de la gastronomie, qu'on peut trouver accessible en ligne. Et si le vrai plaisir d'aller au restaurant résidait simplement dans le goût des bonnes choses. Merci à tous les trois, Yannick Delpech, Johan Comte et York Cyprick.
Merci.